Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, vous le savez, média et culture au sens large, c'est pas un mot pour rien. Tous les médias, toutes les formes de culture, puisque ça ira aujourd'hui, par exemple, de l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique au musée du Quai Branly, excusez du peu, jusqu'à des recettes faciles avec Laurent Mariotte, excusez du peu également. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Notre info média, c'est Masked Singer qui revient avec ce show hors norme. TF1 est toujours en tête des audiences, même si ça coûte très cher. Nous serons avec le reproducteur français de ce format numéro 1 à l'international. Il s'appelle Anthony Meunier et la comédienne Frédérique Bell, éliminée dès la première heure. Qui l'aurait cru ? Lui qui s'est toujours positionné contre l'establishment et la télé à la papa. Voilà que Thierry Ardisson raconte l'ORTF dans de longs documentaires pour France 3. Vous entendrez pourquoi. Nous serons également avec l'auteur de ce doc, Philippe Thulier, Calvan en poupe, puisque c'est lui désormais le producteur de Laurent Ruquier le samedi soir pour la nouvelle émission On est en direct, il sera avec nous. Enfin, Patrick Fiori, chanteur populaire par excellence, pour son nouvel album, un air de famille, mais également un livre pour enfants, une 6e saison dans The Voice Kids. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias avec quel sommaire aujourd'hui ?
Quelles sont les émissions préférées des Français ? Comment CNews peut-elle encadrer Éric Zemmour ? Comment le confinement a-t-il impacté la maison France 5 ? Et comment le gouvernement a-t-il rassuré le milieu du cinéma ?
Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
C'est TF1 qui a pris la tête des audiences avec le lancement de la 17e saison d'Alice Nevers. Les 2 épisodes de la série policière ont été suivis en moyenne par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23% de part d'audience. C'est un bon score, mais en baisse sur un an. France 3 a pris la 2e place avec sa case cinéma. Le film inédit Le Retour du Héros avec Jean Dujardin a fédéré 2,8 millions de téléspectateurs, soit 12% du public. Enfin, M6 pointe 3e avec le final de la saison 3 de la série américaine 9-1-1, légèrement en baisse. En moyenne, 2,5 millions de personnes ont suivi les 2 épisodes inédits de la soirée, soit 10,9% du public. M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 20% de part d'audience, soit 3 points de plus que TF1.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias également avec un classement, le classement des émissions préférées des Français de ces 30 dernières années.
C'est la 3e et dernière grande enquête lancée par le magazine Télé CapSat qui fête cette année ses 30 ans. Il y a 15 jours, il dévoilait les animateurs préférés des Français sur cette période. Vous vous en souvenez, Philippe, bien sûr.
Bien sûr, c'était Bertrand Chameroy. Mais non, c'était Karine Lemarchand et Nagui.
Exactement. Et lundi, je vous parlais des séries préférées des Français de ces 30 dernières années. Game of Thrones, La Casa des Papel et Un gars, une fille. Et dans le prochain numéro, qui sera en kiosque dès lundi, on découvre donc le classement des émissions préférées des Français depuis 1990. Et en tête, on retrouve... Voilà, c'est Koh-Lanta, le jeu d'aventure de TF1 présenté par Denis Brognard, qui se hisse en tête avec 15,5% des voix. Le jeu lancé en 2001 est suivi d'une émission plus ancienne encore et malheureusement plus à l'antenne depuis bien longtemps, Les Nuls, l'émission, avec près de 13% des voix. Elle n'a connu que 56 numéros sur 18 mois d'antenne à peine, mais elle a clairement marqué le public. Et c'est un programme presque aussi ancien qui complète le top 3 puisqu'il s'agit de Taratata, l'émission musicale de Nagui. Elle avait été lancée en 1993 et elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, le sondage de Télécapsat permet aussi de découvrir les émissions préférées des Français selon la décennie de leur création. C'est Qui veut gagner des millions qui trône en pole position pour la décennie 90, Koh-Lanta forcément pour les années 2000 et Recherche appartement ou maison pour la décennie 2010. Eh oui. On découvre également les votes selon l'âge. Les jeunes ont plébiscité Koh-Lanta, Fort Boyard et Pékin Express, tandis que les plus de 60 ans ont placé Les Nuls, l'émission, devant C'est à vous et Recherche appartement ou maison. Enfin, le top 3 varie également entre les sondés hommes et les sondés femmes. Les Nuls, l'émission, devance Koh-Lanta et Nul par ailleurs côté hommes. Recherche appartement ou maison, Koh-Lanta et L'amour est dans le pré composent pour leur part le top 3 féminin. Pour tous les résultats, rendez-vous dans le nouveau numéro de Télécapsat, disponible chez tous les marchands de journaux dès lundi.
Éric Zemmour, prend trop de place sur CNews, c'est pas moi qui le dis, c'est le comité d'éthique du groupe Canal+.
Cette instance de contrôle avait été saisie il y a 15 jours par la présidence du groupe pour se pencher une nouvelle fois sur l'émission Face à l'info, qui est diffusée chaque soir à 19h sur CNews. L'émission est animée par Christine Kelly, mais elle est surtout une tribune quotidienne pour Éric Zemmour, invité à s'exprimer sur tous les sujets d'actualité. C'est dans Face à l'info que le polémiste a commis son dernier dérapage en date. On en avait parlé, c'était le 29 septembre dernier. Éric Zemmour avait assuré que tous les mineurs étrangers isolés étaient, je cite, « voleurs, assassins et violeurs » et qu'il fallait tous les renvoyer chez eux. Plusieurs plaintes ont été déposées, le CSA a été saisi et le comité d'éthique du groupe a donc été convoqué.
Et selon le Parisien, il a déjà rendu son verdict.
Après avoir auditionné les personnes concernées, le comité a tranché, je cite, « Face à l'info ne peut pas continuer à être diffusé sous sa forme actuelle. L'instance de contrôle dénonce le manque d'honnêteté, je cite, d'Éric Zemmour et ses propos contraires à la charte déontologique du groupe. » C'est ce comité qui avait déjà poussé CNews à abandonner le direct pour pouvoir enregistrer et donc couper potentiellement l'émission en cas de débordement du polémiste. Une précaution qui n'a servi à rien le 29 septembre dernier. Je cite toujours « L'émission doit s'ouvrir davantage à la diversité des opinions dans le respect de leur expression contradictoire, ce que ne permet pas son organisation actuelle autour d'un éditorialiste vedette. »
Et en interne chez CNews, quelle est la position des syndicats et de la direction ?
Le Parisien a contacté la société des rédacteurs de la chaîne qui est plutôt d'accord avec cette analyse, même si elle préconise de revenir au format original de Face à l'info, c'est-à-dire un face-à-face entre Éric Zemmour et un autre polémiste fort. Le syndicat plus libre est pour sa part plus réservé. Je cite « Il n'y a aucun problème à ce qu'Éric Zemmour s'exprime sur l'antenne en tant qu'invité parmi d'autres, mais pas qu'une émission tourne autour de lui, même avec un contradicteur pendant une heure, alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, personne ne songerait à faire débattre Dieudonné tous les jours. » Fin de citation. Quant à la direction du groupe Canal+, elle a simplement indiqué qu'elle avait entamé une réflexion pour modifier Face à l'info.
Du nouveau dans la maison France 5.
Alors ce soir, comme chaque vendredi à 20h50, Stéphane Thébault sera aux commandes d'un nouveau numéro du magazine de déco et d'architecture de la chaîne publique. Il partira à la découverte de la ville portuaire de Concarneau et les habitués retrouveront les séquences phares de l'émission, à commencer par la rubrique Changer, où un particulier fait appel à un architecte pour résoudre un problème. Mais la Maison France 5 inaugurera également une nouvelle pastille baptisée La Bonne Idée, qui sera incarnée à tour de rôle par des visages déjà connus de l'émission, Karine Martin, Gaël Cuisy, Cécile Siméon et Stéphane Millet, qui œuvrent déjà dans la rubrique Changer. Pour cette première, Karine Martin va venir relooker une petite cuisine. Elle a expliqué à Louise Bernard en quoi consistait précisément cette bonne idée.
Dans La Bonne Idée, c'est essayer de transformer une petite problématique par quelques astuces. On va essayer le moins possible de rentrer dans le sur-mesure pour que ce soit vraiment le plus concernant possible. C'est-à-dire que je regarde cette rubrique qui va durer 6-7 minutes et à la fin de cette rubrique, je peux me dire en levant le nez sur mon séjour, « Ah ben c'est vrai, j'aurais pu faire ça moi aussi. Eh ben tiens, regarde, il suffit de, tu vois, ce grand mur blanc, si on met un coup de peinture, des belles étagères, un beau miroir, tout de suite ça donne du cachet. » Ça peut aller plus loin, ça peut être j'ai tous mes manteaux qui traînent sur la rambarde d'escalier et les chaussures des enfants partout dans l'entrée. Bon voilà, trouver des petites solutions très rapides qui vont vraiment parler à tout le monde.
On se moque parfois de certains intervenants un peu déconnectés dans la Maison France 5, encore cette semaine avec Bertrand Chamerois, ouais. Ces intervenants et leurs petits appartements de 300 mètres carrés.
Et la pièce à vivre de 200.
Voilà. Et ben dans La Bonne Idée, on sera vraiment sur des problématiques plus simples et plus concernantes. Et si cette innovation arrive en 2020, ce n'est pas un hasard.
On a vu énormément de courriers arriver post-confinement et même pendant le confinement sur principalement le problème du télétravail. Mais je pense que tout le monde a vécu ça, c'est-à-dire qu'une famille qui est confinée tous ensemble avec les enfants, l'école à la maison, le travail de papa, de maman, etc., on a tous vu que ça fonctionnait que moyennement. Les gens ont vraiment eu le temps de faire cette espèce d'introspection imposée, de voir ce qui pêchait à la maison. Donc on s'est dit, cette petite rubrique supplémentaire permettrait de répondre encore plus vite et de manière plus simple, on va dire, sans faire intervenir des menuisiers, etc., à tout le monde.
Karine Martin de la Maison France 5 au micro de Louise Bernard.
Et on termine ce journal avec les discussions entre l'exécutif et les représentants du cinéma.
Je vous le disais cette semaine, Jean Castex avait convié des poids lourds du secteur hier à 10h à Matignon pour discuter de la situation sanitaire. Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont, mais aussi Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, figurait parmi les invités. Et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était aux côtés du Premier ministre pour cet entretien d'une heure. Objectif, les prévenir des mesures qui allaient être annoncées plus tard dans la journée, à savoir l'extension du couvre-feu sur une bonne partie du territoire français, mais aussi leur faire part du soutien du gouvernement au monde du cinéma, que Jean Castex a qualifié, je cite, d'antidote essentiel en ce moment. Les représentants du secteur sont partis rassurés, d'autant que le Premier ministre a annoncé qu'il allait consacrer 115 millions d'euros pour soutenir la culture, dont 30 millions pour le cinéma. Il a aussi insisté sur la nécessité que les salles restent ouvertes et que les films restent à l'affiche. À noter qu'après cet entretien d'une heure, Jean Castex a reçu de 11h à midi les représentants du monde du théâtre. Le Premier ministre a donc consacré 2 heures à la culture pour montrer son attachement et son soutien au secteur dans ces heures difficiles.
Merci beaucoup Charles Decamps, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.
Bon week-end.
Dans un instant, notre info média du jour, on va parler de l'émission de TF1 Masked Singer, toujours en tête des audiences. Elle nous annonce pour demain soir, pour ce soir, c'est le vendredi, la présence d'une star internationale. On serait avec la comédienne Frédérique Bell, démasquée dès le premier soir, et le producteur de l'émission, Anthony Meunier.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Jamais on n'aurait imaginé autant parler de Masque. Masked Singer revient ce soir en deuxième saison. C'est le plus gros pari de TF1 en matière de divertissement depuis une décennie. Émission qui coûte le double d'une émission de variété traditionnelle. J'ai lu autour de 750 000 euros le prime. Le démarrage a eu lieu samedi dernier. TF1 était en tête des audiences, mais avait perdu 1 800 000 téléspectateurs par rapport au tonitruant démarrage de 2009. Pour demain soir, on annonce une star internationale hors compétition. Et pour la semaine d'après, un corbeau qui balance tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour en savoir plus, je reçois Anthony Meunier. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le producteur de Masked Singer, vous êtes directeur général de Hervé Hubert Prod. Et puis Frédérique Bell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, vous avez été une des deux démasquées de Masked Singer la semaine dernière et vous allez pouvoir nous raconter le jeu de l'intérieur. Pour qui ne connaît pas le concept, c'est des célébrités masquées de la tête aux pieds dans des costumes de requins, de robots, d'araignées, de bébés dragons. Ils chantent sur scène, il y a des battles sous les yeux de 4 enquêteurs, Kev Adams, Alessandra Sublet, Angoon, Jarry, pour les aider à les démasquer des magnétos, des indices qui précède les prestations sur scène. Il faut donc deviner, grâce à la voix et aux indices, qui est qui. Anthony Meunier, après ce préambule, quelle nouveauté cette saison?
Des tonnes de nouveautés. C'est vraiment l'angle de cette saison. On a beaucoup écouté les téléspectateurs après la saison 1 qui nous ont fait part de leurs remarques et notamment d'un petit reproche de linéarité. Donc on a tout fait pour vraiment les surprendre à chaque épisode. Donc en effet, demain soir, on aura une star internationale qui va venir hors compétition et qu'on démasquera le soir même.
Ça sera qui?
Bien tenté.
Je l'ai tenté. J'ai écrit « Ce qui ne tente rien n'a rien ».
C'est ça, c'est un peu le principe.
Parfois ça marche, une fois sur 100 ça marche.
Ouais, non, c'est mon quotidien et ça ne marche jamais. Voilà. Je suis très entraîné.
Voilà. Une star internationale, mais une vraie star internationale.
Une énorme très star, connue. On ne peut pas rêver plus actuelle. J'ai vu que TF1 avait commencé déjà à dévoiler des indices. Par exemple, on sait que c'est quelqu'un qui a déjà apporté un costume qui a fait parler le monde entier. Non, vraiment une très grosse star internationale. Et puis surtout, à chaque épisode, on aura des nouveautés jusqu'à la finale. Et notamment le corbeau, la semaine suivante, qui fera son apparition.
Juste un mot, je ne vais pas vous demander le nom, Frédérique Bell, mais est-ce que vous savez qui est... Est-ce que vous êtes dans la confidence de la star internationale?
Pas du tout. Moi, j'avais d'aucune des cagoules. Star, hein, j'avais des cagoules, j'ai vu personne.
Et vous êtes au courant de rien. Ouais. Alors, un corbeau, il va faire quoi, le corbeau?
Eh bien, il va venir, comme tous les corbeaux, balancer des infos. Le corbeau sait tout. Il sait qui sont les célébrités. Il va nous donner des indices supplémentaires, parfois aux enquêteurs, parfois aux téléspectateurs. Et il sera là à partir de l'émission 3.
Et il y aura un duo?
Il y a un duo de perroquets, absolument. Ouais. Ça, c'est une nouveauté de cette saison aussi. Ils font tout ensemble, ils chantent ensemble, on joue avec eux ensemble et on les démasquera ensemble, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté. Et en parlant de duo, il y aura aussi, c'est une autre surprise au cours de la saison, il y aura des duos avec des personnages de la saison 1 qui reviendront pour chanter avec des personnages de la saison 2.
Mais surtout, cette fois-ci, il y aura non pas un, mais deux démasqués par soir. L'an passé, on va le dire, la révélation de la personnalité masquée arrivait parfois après 2h30 d'émission. Donc il y a des gens qui tenaient pas jusqu'au bout.
Exactement.
Ça aussi, c'était une demande des téléspectateurs?
Oui, qu'on a bien entendu et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de rythme. On l'a vu là dès la première émission. Maintenant, on a toujours un démasqué en milieu d'émission, un démasqué en fin d'émission. Et donc, demain soir, samedi soir sur TF1, on dévoilera l'identité de la star internationale dès le milieu de l'émission.
Avant le lancement de la deuxième saison, Louise Bernard, notre journaliste, avait rencontré Alessandra Sublet et elle lui avait expliqué les principales améliorations entre la saison dernière et cette saison.
T'as moins d'indices trafiqués dans les magnétos, c'est-à-dire la plupart des choses que tu vas voir sont des choses pour le coup concrètes. La deuxième chose, c'est la mécanique, c'est de faire sortir deux costumes par prime, forcément, enfin deux célébrités par prime, ça change tout, parce que t'as une accélération du casting quand même, donc tu t'ennuies beaucoup moins.
pardon Anthony Meunier, mais si elle est sans un subladi qu'on s'ennuie beaucoup moins, c'est qu'auparavant on s'ennuyait.
Bah, c'est vrai que le fait d'avoir qu'un démasquage en fin d'émission sur les premiers épisodes, c'était, voilà, on faisait rechanter une deuxième fois, donc on avait un sentiment de redondance qu'on n'a plus du tout, donc c'est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus agréable à regarder.
Vous étiez ennuyé parfois l'an dernier ?
Non, moi je ne me suis pas ennuyé du tout, alors cette année encore moins.
Non, mais vous êtes en régie, vous êtes comme un ouf, vous courez partout.
Ouais,
on ne peut pas s'ennuyer quand on fait votre métier.
On est hyper fiers de tout ce qu'on a fait avec Frédéric et avec les autres invités, parce qu'il faut se dire qu'ils viennent là pour vraiment pour divertir toute la famille, et je crois que cette saison, encore plus qu'en saison 1, le pari est réussi. On a des mises en scène absolument incroyables, et on l'a vu avec la bouche, mais il y en aura plein dans tous les épisodes qui sont absolument fabuleuses.
Il y a un pré-générique, c'est-à-dire qu'il y a en début d'émission, il y a une sorte de résumé de 3 minutes de tout ce qu'on va voir, une sorte de pré-générique, je ne sais pas comment vous l'appelez, et il y a cette phrase, comme si ça n'allait pas de soi, les célébrités, vous les connaissez toutes. Alors qu'ontologiquement, le principe d'une célébrité, c'est qu'elle est célèbre et qu'on la connaît. Vous avez changé le profil. Je me souviens que l'an passé, la première démasquée, c'était Marie-Josée Pérec. Les jeunes ne savaient pas qui elle était. Et je ne parle pas de Sheila.
Ouais, absolument. Ils ne connaissaient pas pour certains Marie-Josée Pérec. Alors moi, je suis très fier qu'ils l'aient découverte. Mais voilà, le démasquage de Frédéric le montre. C'est un casting, cette saison, qui est incroyablement transgénérationnel.
Mais ouais.
Frédéric, c'est l'exemple parfait
Frédéric,
de l'actrice
une question
la
pour
France
vous,
entière connaît.
Combien d'entrées vous avez faites, si on ajoute tous vos films du Cobu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et j'en oublie.
Oh, je ne sais pas du tout, mais je sais que je suis chaque année dans le film qui fonctionne. Cette année, c'est du Cobu.
Ouais.
D'ailleurs, un film pour enfants.
Ouais.
C'est important parce que le public sont des enfants souvent pour Massinger. Je ne peux pas vous dire, je ne calcule pas ce genre de choses.
Et alors aussi, il y avait les indices. L'an dernier, les indices étaient cryptés.
Ouais,
on comprenait
aussi...
rien, on comprenait quasiment rien aux indices. Enfin, c'est des indices qui servaient à rien.
Ouais, beaucoup de gens.
Là, vous avez changé.
On a besoin, ouais, d'avoir des éléments plus tangibles, et c'est vraiment le cas dans cette saison. L'enquête avance beaucoup plus vite, et surtout, on a changé la mécanique. C'est-à-dire que là, on a vu, par exemple, en émission 1, la question des enquêteurs à chaque personnage. À chaque émission, maintenant, ça va changer. Il y a des mécaniques de jeu différentes, d'enquêtes différentes. On va avoir des proches des célébrités qui viennent donner des indices. On a des indices dans les costumes eux-mêmes, visuellement, qu'on peut trouver dès maintenant si on est bon.
Enfin, oh, ils sont trop difficiles. Les indices dans les costumes, ils sont trop difficiles.
Ah non, Frédéric, par exemple, elle avait quand même le logo de Canal+ sur sa bague.
Mais en tout petit,
Il faut regarder.
Non,
il y a
c'était
des
pas le logo de Canal+,
tout
c'était une toute petite croix. Ils ont dit, regardez, il y a une petite croix. J'ai eu l'impression qu'on était chez les complotistes. Non, sans mentir. Et alors là, par contre, c'était un tout petit peu trop facile, je vous le reproche pas, mais les quatre enquêteurs ont trouvé leur Manodou.
Ouais, alors comme quoi, voilà,
bim, bim,
tout est
bim, et c'était leur Manodou.
Absolument. Ouais. Jarry était très fort et moi j'ai vu, je suis sur les réseaux sociaux pendant la diffusion de l'émission et j'ai vu que la voix de Frédéric instantanément, mais c'est très flatteur d'ailleurs, avait été reconnue par beaucoup de gens parce que voilà, c'est une voix qu'on a dans notre quotidien et dans tous nos films préférés. Donc c'est une autre façon d'enquêter, d'avoir voilà, des personnalités très très connues qu'on reconnaît parfois plus facilement, mais on joue quand même tout autant.
La voix de Frédéric Bell et la vôtre, on la retrouve juste après ça, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Anthony Meunier qui produit Mask Singer, le deuxième numéro de la deuxième saison. Ce sera demain soir sur TF1, évidemment, à 21h en prime time. Avec Frédéric Bell qui fut la première démasquée, c'est comme ça qu'on dit, de samedi dernier. Non, la première, la deuxième. La première étant Laure Manaudou. Vous étiez déçu d'être sorti dès la première semaine?
Déçu.
Vouliez rester?
Alors, j'aurais bien aimé chanter d'autres chansons parce que j'avais beaucoup travaillé pendant le confinement. Ça m'a même tenu en vie pendant le confinement. Après, c'est plutôt gratifiant de se faire reconnaître. Voilà, ça veut dire aussi qu'on est reconnaissable, tout simplement.
On est d'accord. Anthony Meunier, même si TF1 était en tête samedi, vous n'avez pas été déçu par l'audience de la première ?
Ah oh bah non, pas du tout.
Vous avez les chiffres en tête ?
Ouais, bien sûr.
Allez-y, dites-les, moi je les ai là.
On a fait 4,8 millions, on est à 24% de part d'audience, qui est je crois plus de 30% au-dessus de la moyenne de la CAS ces derniers mois, donc c'est très important. Et puis surtout sur les cibles commerciales que vise TF1, on fait 57% sur les jeunes, on rend l'antenne à 55% ménagère, donc non, tout va très très bien.
42% sur la cible ménagère, mais 4,8 millions de téléspectateurs, vous étiez en tête ? Mais c'est presque 2 millions de moins que la saison 1 qui avait démarré devant 6,6 millions de téléspectateurs. L'émission est en recul dans chaque pays. Vous attendiez à ce recul ?
Oui, bah c'est toujours en saison 2, vous savez, il n'y a plus l'effet de curiosité de la première saison. Puis en plus, on change de case, on est le samedi et pas le vendredi. Donc oui, on s'y attendait, mais encore une fois, on est très au-dessus de ce qu'on pensait, de ce que la case fait, de ce qu'on pouvait imaginer faire dans nos meilleurs scénarios.
Quelle est la meilleure case ? Parce que le vendredi, en ce moment, il y a Koh-Lanta. Il y a une case meilleure qu'une autre, comment ça se passe ?
Ah bah je sais pas s'il y en a une de meilleure que l'autre, mais en tout cas, je sais qu'on a changé, donc ça a changé forcément la donne.
D'accord, non mais je sais qu'en général, on préfère être, je sais pas moi, le vendredi ou le samedi, plutôt que le lundi ou le mardi, mais est-ce qu'il y a une différence entre le vendredi et le samedi dans les cases ?
Moi les deux me vont, mais je trouve que le samedi est bien adapté pour Massinger, parce que le samedi matin, il y a beaucoup de gamins qui ont des activités périscolaires, et du coup, le fait d'être le samedi soir, là le dimanche matin, ils peuvent dormir un peu, donc veiller le samedi soir pour nous regarder.
Et veiller, le mot est faible, parce qu'il y a une émission après l'émission, un after. C'est présenté par Camille Combal, également comme l'émission Premium, avec les coulisses de l'émission. Il y a un bêtisier, il y a des interviews derrière une vitre. Vous avez tourné quand ?
On a tourné au mois de juillet.
Au mois de juillet, ouais. Ouais. Juste après le confinement.
Ouais. Ça a fait du bien à tout le monde de
ça
se retrouver en faisant la fête.
Ça a fait du bien de revoir des gens, de chanter, de s'amuser.
Et pourquoi vous avez fait les interviews derrière des vitres comme un hygiaphone des PTT ?
Alors, à la base, en fait, pour tout vous dire...
C'était pour se protéger ou en se disant, si ça tourne mal, au moins on est blindé ?
Non, alors c'est devenu ça, mais l'idée c'était de... Le bureau de Camille, qui à la base était un bureau, on a voulu en faire un parloir, parce ouais. que c'est, il est en tête à tête avec les démasqués. Donc ça collait parfaitement bien à ce qu'on voulait faire. Mais ouais, c'est une émission géniale d'ailleurs qui marche très bien pour cet horaire-là, parce que c'est que de l'inédit. On voit vraiment les coulisses, on a vu Frédéric dans ses nombreux rendez-vous de travail, de coaching, de studio, d'essayage, etc. Et on y voit voilà, toutes les coulisses d'une émission qui est quand même incroyable à regarder, à faire dans le secret. Donc c'est une émission avec des contenus inédits que les gens adorent. Et alors celui de la semaine prochaine est d'autant plus dingue qu'on a les coulisses de la star internationale.
Alors, ça, alors moi, j'ai vu, pas celui de la semaine prochaine, mais j'ai vu celui de samedi dernier, évidemment. On a aussi vu Frédéric dans ses premières œuvres à la télé, c'était La Minute Blonde sur Canal+. On vous a reproché, dites-vous à l'époque, d'avoir une trop grande bouche. On va voir votre interview au parloir, un tout petit bout évidemment, avec Camille Combal, Frédéric Bell.
Bonjour, je suis Dorothy Doll et je viens vous parler des bébés qui meurent du foie. Oui, comme des gros alcoolos.
Tellement drôle.
C'est un personnage qui parlait en jouissant. Ah, bonsoir. Et elle défonçait des gens.
Exactement, mais avec...
Beaucoup de vaseline.
Faut oser passer ça sur TF1.
L'extrait que qu'ils ont passé, c'était pour la campagne que j'avais fait pour la MFE, les enfants. C'était pas vraiment drôle, cette réplique-là, en tout cas.
Non, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la fin.
Oui,
la fin. C'était le truc avec beaucoup de vaseline. J'avais jamais entendu ça sur TF1.
Alors, non, mais ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été démasquée, voilà, et je pense que là, il devait être d'à peu près 2h du matin.
Ouais.
Donc, Camille et moi, on était juste complètement raides de fatigue. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, et j'adore Camille, je le trouve très drôle, et on est parti en mode fou rire. Et voilà, je pensais pas qu'ils allaient garder des choses comme ça, mais ça veut dire que c'est plutôt honnête.
Ça allait justement être ma question. Moi non plus, je pensais pas que vous alliez passer des choses comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de changer à TF1, qui était une chaîne plutôt orthodoxe, je vais dire.
Bah alors moi, j'ai un plaisir fou à travailler avec toutes les équipes de TF1 sur Massinger, parce que oui, c'est l'émission où tout est possible.
Non, mais ils n'ont pas dit, ça en coupe.
Pas du tout.
Il y a 10-15 ans, ils auraient coupé ce passage.
Alors enfin, peut-être,
même temps,
moi j'y étais pas, mais
c'est pas très
si
grave.
Frédéric Bell est là avec nous et avec son humour, c'est parce qu'on veut ça, on veut voilà, sa folie. Et elle nous l'a montré avec ce costume incroyable qu'elle a choisi, la bouche. Et par la prestation qu'elle a faite, Fuck You, il y avait un vrai message.
Fuck you.
On s'amuse, voilà, c'est l'émission où on s'amuse, la plus folle. Et je crois qu'en ce moment, on a bien besoin de ça. Donc rendez-vous demain soir sur TF1.
Vous parlez de réseaux sociaux, vous n'avez pas peur d'être spoilé. L'an passé, il y avait un site qui avait donné, que je ne vais pas citer, qui avait donné la liste des participants et même plan. Comment vous faites ? Quelles précautions supplémentaires, tant que vous en avez prises, avez-vous prises ?
Ah bah alors on en a pris, oui, encore plus.
Ils m'ont séquestré.
Ah, c'est ça.
J'allais vous demander d'abord.
Ah non, c'est
d'abord Anthony, ensuite
témoigner.
Frédéric.
C'est une émission assez incroyable à faire pour ça, parce que les célébrités vivent un truc vraiment incroyable d'anonymat, de sécurité. On a des dizaines d'agents, on en a mis encore plus que l'an passé. Mais je crois surtout que les gens qui avaient sorti quelques noms, il y avait eu quelques fuites l'an dernier, ont bien compris que le public n'aimait pas ça, parce que c'est comme spoiler la fin d'une série, ça fait plaisir à personne, et donc voilà, on est bien content que ça
c'était
ne soit
quoi
pas
les
arrivé.
C'était quoi les conditions de sécurité pour vous, Frédéric ?
Sincèrement, le plus dur, c'était de mettre une cagoule, des gants, parce qu'il ne fallait pas qu'on voit notre couleur de peau, etc., en plein mois de juillet. Sincèrement, là, j'avais mis la clim à fond.
Pardon, voilà. Frédéric.
Mais c'était super, parce que moi-même, je jouais, parce que j'essayais de reconnaître les gens que je croisais. Évidemment, je ne pouvais pas parler, parce que dès que je parle, on reconnaît ma voix. Mais ouais, moi-même, j'ai joué au jeu, quoi.
Et qu'est-ce que vous disiez à votre famille, à vos amis, quand vous partiez en tournage ? C'était quoi, la
limite ? Non, je l'avais dit à mes parents, mais ça va, ils sont à la campagne.
Non, mais à la campagne, on a le téléphone.
Ouais, mais non, pas trop. Et non, j'ai surpris beaucoup de monde. Je me suis moi-même surprise, parce que je ne pensais pas aussi bien chanter.
Le gagnant de la saison précédente était une gagnante, Laurence Boccolini. Belle mise en avant de la part de TF1. Et puis en fin de saison, elle quitte TF1 pour aller à la concurrence chez France 2. Ça a été vécu comment ?
Ah bah écoutez, moi je suis pas TF1, c'est pas des sujets qui me préoccupent vraiment, mais en tout cas c'était une belle surprise de voir que Laurence Boccolini chantait aussi bien, et elle nous a fait le show tout au long de la saison et c'était super, et on a la même chose cette année, avec en plus une vraie progression d'épisode en épisode, où les tableaux, notamment les mises en scène, sont vraiment, vous allez le voir, incroyables. D'ailleurs samedi on a un truc que j'ai jamais vu en télé.
Allez-y.
Qui va être sublime. Ah bah je vous laisse le découvrir, je peux pas vous le dire sinon ça va révéler le truc.
Ah mince.
Mais quand vous le verrez, c'est assez incroyable, et on a fait ça à chaque épisode, c'est-à-dire qu'il y a des mises en scène de plus en plus folle, on a parfois 30 personnes sur scène, c'est vraiment un grand spectacle pour toute la famille.
Et puis le cadeau pour une actrice comme moi, qui je rêve de chanter sur un plateau, c'était un bonheur. C'est, ils m'ont fait travailler avec les arrangeurs de Johnny, du coup pendant le confinement j'ai travaillé plein de chansons avec comment il s'appelle,
avec Pierre Billon,
Pierre Billon. Ouais.
On vous voit avec Pierre Billon dans le doc,
ouais,
on peut le revoir,
génial.
C'est en replay,
j'adore,
moi je l'ai vu en replay,
gars. J'adore ce mec.
Bah ouais, ils sont à l'image de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, c'est une grande famille, on s'amuse à le faire, et je crois que le public le voit à l'antenne. Pierre Billon, il a quand même travaillé avec Johnny, Sardou, Liza Minnelli, enfin,
il a une vraie exigence.
Et Frédéric Bell, il y aura une saison 3, oui non?
Ah oui, bien sûr.
Merci beaucoup Anthony Meunier, vous êtes le producteur de Masked Singer, directeur général de Hervé Hubert Prod. Merci à Frédéric Bell, vous êtes comédienne,
oui.
Et on peut vous voir dans le replay, et vous tout le temps, tous les samedis. Merci beaucoup. Dans un instant, notre invité, ce sera le producteur Philippe Tullier, parce qu'il signe un documentaire en deux parties sur les débuts de la télé. Au RTF, ils ont inventé la télévision. C'est sur France 3, et la voix, c'est Ardisson. On l'entendra lui aussi. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Philippe Tullier.
Bonjour Philippe.
Vous êtes producteur à la tête de la société ADL TV, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire ami de la télévision.
Et vous êtes notre invité car vous êtes l'auteur de ORTF, ils ont inventé la télé, doc qui passe ce soir sur France 3. 2h16 d'images d'archives pour raconter avec la voix Thierry Ardisson les 10 années d'existence de l'Office de radio-télévision français. C'est comme ça qu'on dit la fameuse ORTF qui avait été créée par et pour Charles de Gaulle. Moi je croyais que l'ORTF c'était ringard, que c'était la télé à la papa. Pourquoi ce retour en grâce à vos yeux et à ceux de personnages comme Thierry Ardisson, qui est plutôt iconoclaste ?
Alors d'abord, lui, il prétend, alors Thierry c'est un ami, il prétend qu'il est un enfant de l'ORTF plus qu'un enfant de la télé. C'est ces années-là où ces pionniers qui ont inventé la télé lui ont donné l'envie d'en faire plus tard et l'ont influencé même sur ses concepts d'ailleurs.
Ah oui ?
Oui. Par exemple, Philippe Bouvard... Il y a une connotation avec Ardisson. Il recevait ses invités chez Maxim's. Thierry les recevait en boîte de nuit avec un ton un peu piquant. Voilà, c'était une influence.
De qui est l'idée de ce doc ?
Ça vient de Thierry. Non, c'est Thierry. En fait, il avait été invité sur deux docs pour témoigner de la télévision des années 80 et des années 90. On en avait parlé d'ailleurs ici. Et Thierry me dit un jour, j'aimerais bien faire quelque chose autour de l'ERTF et j'aimerais bien le faire avec toi. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Au début, je me disais, le RTF, c'est quand même très noir et blanc. C'est effectivement la télévision de papa, voire de papy.
Ouais, c'est comme ça qu'on disait. C'était oui. Le cinéma de la nouvelle vague, qui appelait ça le cinéma à la papa.
Exactement.
Pour parler de la génération d'avant 60.
Tout à fait. Et donc là, m'immergeant dans les archives, j'ai découvert des pépites. Et je me suis dit, mais en fait, il y avait un vent de liberté, une audace incroyable. Et là, j'ai eu envie de raconter ça.
Ah bah tiens, premier exemple qui m'a vraiment surpris. Comment les politiques ont appris au milieu des années 60 à servir de la télé, notamment De Gaulle, général De Gaulle, qui a gagné, dit-on, les élections de 65 grâce à une interview dans laquelle il est assez détendu et il sort des trucs qui passeraient plus aujourd'hui.
La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Et bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
On dirait que c'est Tante Yvonne qui parle à son épouse, qui fait la morale.
Oui, alors au-delà de ça, c'était une bête de télé, le général de Gaulle. Il avait inventé la petite phrase, ce qu'il a ensuite reproduit dans ses conférences de presse. Mais c'était ça. En fait, il a, au début, il était plus radio, on l'appelait même le général micro. Et quand la télévision arrive dans son univers, il va découvrir que c'est un univers, un formidable moyen de communication, et il va se l'approprier de manière incroyable.
Oui, mais là, on est sur un documentaire sur le général de Gaulle. Mais la télévision elle-même, quand elle était face au général de Gaulle, n'était pas elle-même iconoclaste.
Non, elle était...
Ils étaient
elle
était les doigts ordres. Sur la couture du pantalon,
elle
faut bien dire.
Absolument.
Ce qui est formidable, c'est que vous évitez le passéisme au profit d'une leçon d'histoire. Est-ce que vous avez de la nostalgie pour cette télé que vous n'avez pas connue, évidemment?
Non, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Non, j'avais juste envie de montrer cette liberté de faire, de création, et alors, sans nostalgie, mais montrer que aujourd'hui, on tente moins de création française, forcément.
Ah bon? Bah oui. Aujourd'hui, on tente moins que dans les années 60. Ah bah oui, expliquez-nous.
Parce que là, tout était à faire. Il y avait une page blanche à écrire et qu'il fallait nourrir la télévision, le monstre de la télé, 5 ou 6 heures d'antenne par jour. Et donc, il y avait tout à faire. Et on n'achetait pas à l'étranger des formats. Donc on donnait à Guy Lux une émission parce qu'il avait une idée et on la testait.
Ouais. Mais est-ce qu'on piquait les idées aux autres ? Est-ce que quand on dit la France, je trouve plus son nom, Pierre Sebag a inventé le premier journal télé, c'est le premier journal télé au monde ou le premier journal télé en France, parce qu'il l'avait vu faire chez les Américains.
Il l'avait vu faire, je pense qu'il le savait. Bon, lui, c'était un homme de radio, donc la déclinaison radio-télé était évidente. D'ailleurs, beaucoup de ces pionniers venaient de la radio et avaient justement ce ton, cette envie de direct aussi, parce que c'était une télévision qui était beaucoup en direct. Donc oui, il y avait peut-être une influence, mais on voyageait pas, on avait moins de communication de l'étranger à ce moment-là.
Et pour une autre raison absolument formidable, c'est que le magnétoscope n'existait pas encore.
Exactement.
Et donc on était obligé de faire les choses en direct.
Tout à fait.
Ils ont inventé la télé, c'est le titre de l'émission, et Thierry Ardisson pense comme vous, il pense que tout a été créé à cette époque. C'est ce qu'il raconte au micro de notre journaliste Louise Bernard. Écoutez Thierry Ardisson.
Il y a plein de trucs, il y a Denise Glaser qui quand elle voit Gainsbourg, donc il y a le générique, c'est le dimanche à midi, merveilleuse intervieweuse, elle regarde Gainsbourg comme ça, elle lui fait « Ça va pas à vous en ce moment. » Moi-même, moi, j'aurais jamais pensé à dire ça. « Ça va pas à vous. » C'est très impressionnant. Il y a un truc qui m'a scotché, c'est Guy Lux. À un moment, il faisait une émission avec des chanteurs et des chanteuses. Et un soir, il fait une émission qui s'appelait, je ne sais plus comment, et il dit « Voilà, les habitants de la ville d'Angers, si vous voulez que Charlotte revienne la semaine prochaine, allumez tous la lumière. » Il avait un compteur qui mesurait la consommation électrique de la ville d'Angers. Et comme c'était très fort, il a dit « Vous revenez la semaine prochaine ». C'est aussi une idée absolument incroyable. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, on serait obligé d'éteindre à cause de l'écologie. Mais si vous dites « La ville d'Angers, éteignez la lumière », et comme ça, Charlotte pourra peut-être revenir. Je trouve ça génial. Voilà.
C'est vrai.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Et oui, bien sûr. Et Guy Lux, alors pour le coup, puisqu'il ouvre le chapitre, c'est vrai que c'était un magnifique inventeur, un créateur incroyable.
Et en même temps, c'était quand même totalement compassé. Vous consacrez quasiment un quart d'heure aux speakerines, Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, Jacqueline Huette, Denise Fabre, femme tronc qui annonçait les programmes. Vous ne regrettez pas leur disparition aussi ?
Non. Après, je pense qu'elle remplissait un rôle à l'époque. Il y avait une image de la femme qui était effectivement celle de ces années 60-70. Donc forcément, oui, elle faisait rêver. C'était un peu d'abord, c'était de véritables icônes, mais aussi c'était des stars de télé. Les femmes se regardaient leur tenue. Elles
oui, mais ce que je veux dire par là, on peut quand même pas regarder ça comme un âge d'or. Je me souviens qu'il y en a une qui a été virée parce qu'elle avait montré ses genoux à l'antenne.
Bien sûr, oui. Alors bon, c'est sûr que ça, c'était aussi le revers de la médaille. Elles faisaient rêver, mais elles étaient aussi soumises aux diktats de l'époque, effectivement, du machisme, parce que très très peu de femmes à la télévision. Thierry parle de Denise Glaser, mais finalement, il y en avait très peu. Et c'était une télévision d'hommes.
Et dans votre doc, il y a un personnage, vous savez quoi ? Il écoute Culture Média, c'est Michel Drucker. On va l'entendre juste après. Vous restez avec nous, Philippe Tullier. Vous êtes l'auteur du documentaire ORTF, Ils ont inventé la télé, avec Thierry Ardisson. Culture Média revient.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du producteur Philippe Tullier, il signe ce documentaire en deux parties. Première partie ce soir. La seconde, le deuxième volet vendredi prochain, ça s'appelle « Ils ont inventé la télé ». Alors depuis l'ORTF, puisque c'est ce dont il est question dans ce doc, les speakerines ont disparu. La piste aux étoiles, c'est un divertissement sur le cirque qui a disparu. La caméra invisible a donné lieu à surprise surprise. Mais il n'y en a qu'un qui n'a pas bougé, qui est toujours là, indéboulonnable, indémodable, avec la même coupe de cheveux. Écoutez-le.
Quelqu'un qui séduit beaucoup les téléspectateurs et que l'on voit plus souvent, en tout cas sur le petit écran, Michel Drucker. On dit très souvent que vous êtes un petit zitrone qui deviendra grand. parce que, comme vous avez toujours été spécialisé et dans les sports et dans les variétés, et que vous plaisez, c'était inévitable. Est-ce que je me trompe?
Enfin, vous savez, la réussite pour moi, c'est d'avoir réussi à vaincre une timidité et une anxiété quasi maladive qui m'empêchait, quand j'étais étudiant, de regarder quelqu'un en face. Alors que maintenant, j'en regarde plusieurs millions.
On vient donc d'entendre Michel Drucker à la fin des années 60. Comment expliquez-vous que lui seul ait traversé les époques ?
Bah, d'abord parce que je pense qu'il est, il est resté fidèle à lui-même. En fait, il est curieux des gens qu'il a reçus. Ça a été un temps des sportifs, puis des acteurs, c'était dans les rendez-vous du dimanche, et puis des artistes de variété dans Champs-Élysées. Il a toujours eu cette, ou des humoristes ensuite, il a toujours eu cette curiosité. Je pense que c'est ça qui l'a tenu.
Oui, mais pourquoi pas les autres ? Parce que tous les autres aussi étaient curieux, étaient sincères.
Alors,
qu'est-ce qu'il a de plus que les autres,
Drucker ? Parce qu'il est plus jeune que les autres.
Il y en a quand même beaucoup. Oui, il est plus jeune que Zitrone.
C'est sûr que non, mais là, dans le doc, il faut admettre que beaucoup ont disparu, malheureusement la majorité. Et donc Michel, lui, a traversé les années, mais il a commencé à 18 ans, donc c'est sûr.
Je me souviens que dans les années 90, Thierry Ardisson était fasciné par Michel Drucker et il disait « Mais comment fait-il pour ne se fâcher avec personne ?» Vous entendez bien, Ardisson ?
Ah, je m'entends très bien avec Ardisson, j'aime beaucoup Michel aussi et je le salue. Et d'ailleurs, je lui ai passé un coup de fil cet été parce que je voulais quelques précisions en écrivant. Je ne voulais pas dire de bêtises, donc je l'avais appelé.
Et je vous pose la question si vous entendez bien avec Thierry Ardisson parce que lui, apparemment, s'entend très bien avec vous. Écoutez.
Je l'aime. Et à mon âge, on ne travaille qu'avec des gens qu'on aime. Parce que, comme on dit, c'est too short life list, c'est-à-dire la vie est trop courte pour bosser avec des connards. Donc Philippe, déjà, je l'aime. Et ensuite, toutes ces émissions d'archives, il a une écriture absolument incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'émission sur le RTF, il y a 3000 plans. Donc, on se lasse jamais. C'est-à-dire, ça bouge très vite. C'est un peu ce que je faisais moi, où les interviews ne duraient pas plus de 12 minutes. Quoi. C'est-à-dire, ça va très vite. Et il fait des trucs, bon, les années 80, les années 70, et surtout les Carpentiers, il a fait des... C'est vraiment... Il a modernisé l'écriture des archives à la télévision, Philippe. Alors, il est très pudique, il est très... humble, il ne va pas le raconter si je ne le raconte pas.
C'est vrai, c'est adorable, je rougis.
C'est un joli compliment. Ouais, alors vraiment, Ardisson merci. Est fâché avec Catherine Barma. Fâché également à Catherine Barma, c'est Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier a choisi votre société de production pour sa nouvelle émission, son nouveau talk du samedi soir. On est presque en direct. Comment ça s'est fait ? Depuis quand vous travaillez sur le projet ? Qui a appelé qui ?
Alors, d'abord, ça s'appelait « On est en direct » et puis ouais. Voilà, couvre-feu.
On est presque en direct.
Voilà, on est presque en direct depuis la semaine dernière. C'est Laurent. Et très honnêtement, je l'avais même encouragé à aller voir plusieurs de mes confrères en lui disant que je n'étais peut-être pas forcément la bonne personne. Et puis, il a insisté et il m'a dit « Mais non, c'est avec toi que j'ai envie de le faire. » Il faut dire que nous faisions déjà les grosses têtes ensemble sur France 2 en prime time, qu'on va refaire d'ailleurs bientôt. Et donc, il m'a choisi. Bah, voilà, et à partir de là, on s'est mis au travail. Et ça s'est né pendant le confinement, en fait.
Catherine Barnard, vous avez passé un petit coup de fil d'encouragement ?
Pas du tout.
Est-ce que vous êtes inquiet des audiences de « On est en direct » et « On est presque en direct » ? Vous êtes passé de 800 000 téléspectateurs, 13% de part de marché pour la première, à 600 000, ça vous inquiète ?
La semaine dernière, oui. Non. Alors, très honnêtement, on a pour le coup... d'abord, c'était la quatrième émission, donc il faut que ça s'installe. On travaille beaucoup. Alors, ça se voit peut-être pas forcément, mais on travaille vraiment, je dirais, en souterrain. On essaye d'affiner les choses pour que ça prenne encore un peu plus et que ce rendez-vous devienne incontournable. Je pense que l'univers, le décor a beaucoup fait parler et je pense qu'il déteint même sur le ton de Laurent, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux que dans l'émission précédente. Et surtout, voilà, il y a des invités qui nous font confiance. Demain, on a un très beau programme et puis voilà, on va continuer de creuser le sillon.
Prochain projet avec Ardisson et Ruquier, il reste 20 secondes.
Ah non, pas avec Ruquier, on continue. Avec Thierry, on en parle de effectivement d'autres projets. Mais déjà, il y a le RTF ce soir et la semaine prochaine. Et Ruquier demain, donc c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, Philippe Tullier.
Merci. J'ai gagné l'Eurovision. Donc.
Oui, on rend l'antenne de l'Eurovision, le tédéum de Charpentier. Merci d'avoir été avec nous avec cette trompette Culture Média. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Notre invité, c'est Patrick Fiori pour son nouvel album « Un air de famille ». Et puis dans les indispensables, un voyage au Mexique grâce à une très belle exposition et de la cuisine à emporter, pas forcément au Mexique. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.